Donc, on dit bonjour à tous les visiteurs. Je ne sais pas si certains sont en vacances. Levez la main, ceux qui sont en vacances. Il n'y a pas beaucoup de monde. Soyez pas jaloux, en tout cas, si vous n'êtes pas en vacances. On est tous en week-end ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse partir tous en voyage. Donc, je ne sais pas si vous avez amené votre sac à dos, mais j'aimerais qu'on parte en voyage. Et la première chose que j'aimerais que vous imaginiez ici, c'est un bidonville. Un bidonville à côté d'une plage. Donc, il y a la mer, mais quelque chose, vous n'aimerez pas du tout aller en vacances. Des détritus de partout, je ne vous parle même pas de l'odeur. Bref, quelque chose d'horrible. Et sur cette plage, il y a un petit garçon qui tente de s'amuser avec le sable noir. Il tente de construire un château, plutôt debout, mais qui ne tient pas debout. Il a une petite cabane. Il est plutôt à l'abri dedans, sauf en cas de tempête ou en cas de marée haute. Mais bon, il se sent bien, mais ça se passe plutôt bien pour lui, il le pense. Mais finalement, c'est quelque chose d'assez néfaste pour lui. Et ce gamin et tout ce qui l'entoure représentent une vérité spirituelle que j'aimerais avec laquelle j'aimerais qu'on commence. C'est toutes les fois où notre cœur est partagé. Toutes les fois où nous gâchons notre vie, toutes les fois où nous gâchons notre temps, comme ce petit garçon. Tout le temps que vous passez à prendre avec des choses qui prennent la place de Dieu, vous êtes ce petit garçon. Et c'est ce qu'on appelle le péché. Je pense qu'on sait tous les péchés que l'on a dans notre vie. Donc c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Et on préfère se contenter de ces petits plaisirs, alors que si on se tourne, et que l'on change de perspective, on peut goûter autre chose. Et donc, tournons-nous. Et on peut goûter ici à des joies et des plaisirs infinis. Vous voyez ici, c'est une montagne. Une montagne près d'une plage de sable fin. Et sur cette plage de sable fin, il y a un petit chemin. Vous pouvez prendre ce petit chemin, monter cette montagne et aller jusqu'au sommet. Et sur ce sommet, vous pouvez voir un paysage resplendissant. De nouvelles choses, la création. Et c'est sur cette montagne que se trouvent de vrais trésors, de vraies joies, de vrais plaisirs. Sur cette montagne, vous allez être transformé, vous ressourcer. Et cette montagne, elle représente aussi une vérité spirituelle, c'est Dieu. Donc le bidonville, avec cette plage morose et cette montagne qui offre quelque chose, un plaisir éternel. Donc, ce que je viens de vous décrire, c'est une réalité que l'on connaît tous. Personne ici n'y échappe. On a tous été ce petit garçon, et peut-être que même ce matin, vous êtes, et je suis, ce petit garçon. Souvent, on est trop facilement satisfait de ce que l'on expérimente, et on en oublie la majesté de Dieu. On préfère bâtir sur le sable, alors que Dieu nous demande de bâtir sur le roc, de devenir des vrais hommes et des vraies femmes de Dieu. Ce matin, on ne va pas fixer les yeux sur moi, mais on va fixer les yeux sur un guide qui est le Saint-Esprit. Et on va utiliser une carte pour nous conduire à ce trésor. C'est le psaume chapitre 16. Donc, je vous invite à prendre le psaume 16 avec moi, qui a été écrit par David. Et pour ceux qui ne savent pas, David, c'est un roi d'Israël, le roi d'Israël. Et il a écrit 73 psaumes, si je ne me trompe pas. Donc, lisons le psaume 16. Hymne de David, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. » Je dis à l'Éternel, « Tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. » Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Prions. Seigneur Jésus, on te remercie parce que c'est toi qui est notre guide. On te remercie parce que ces paroles sont inspirées de l'Esprit Saint et on veut que tu les utilises pour que ça puisse nous transformer concrètement dans notre manière de vivre. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ce psaume, le personnage principal, c'est Dieu lui-même. Et pour en revenir un petit peu à notre illustration de tout à l'heure, le point central de ce psaume, c'est que la montagne, qui est ici plutôt, la montagne nous guide complètement, donc corps, âme et esprit, à des délices éternelles, dès lors que nous nous réfugions en elle. C'est-à-dire que David a fait un choix, celui de raconter un voyage, comment Dieu lui a fait connaître le sentier de la vie. Et pour ça, commençant le voyage, David commence avec une requête. Il dit « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. » Et la question qu'on peut se poser, c'est « Mais, ok, il dit ça, mais de quoi a-t-il besoin d'être gardé ? Pourquoi demande-t-il un refuge ?» Je ne donne pas de réponse pour l'instant. Mais pour commencer un voyage spirituel auprès de Dieu, il faut se poser deux questions. C'est de quoi ai-je peur et où est-ce que je me réfugie? En d'autres termes, à quel moment je me sens en sécurité dans ma vie? C'est intéressant parce que David ne précise pas de suite pourquoi il demande à Dieu de le garder. Mais on va le comprendre par la suite grâce à des sous-entendus. Prenez un temps pour y réfléchir. Quelles sont vos peurs? Je sais que Samuel a fait un message complet, donc on ne va pas s'attarder sur ça, mais quelles sont vos peurs dans votre vie? Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui donne les peurs les plus importantes parmi les habitants. Et ça donne un petit peu un reflet du cœur humain. J'ai choisi de prendre les 7 peurs les plus importantes. La 7e peur, c'est la peur de l'avion. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont peur de l'avion, mais c'est vrai que ça peut faire peur de prendre l'avion. Je ne sais pas si Jordan, tu avais peur en Côte d'Ivoire, mais en tout cas, des fois, on peut avoir peur dans l'avion. La 6e peur, c'est d'être dans un endroit fermé. La 5e peur, c'est le fait d'avoir peur du sang et des seringues. La 4e peur, c'est celle de se noyer. La 3e peur, et moi j'avoue que j'ai un peu peur de ça, c'est les insectes et les serpents. La 2e peur, c'est être en hauteur. Vous êtes en haut d'un gratte-ciel, dans un avion et vous êtes en train de sauter en parachute. Et la première peur, je ne sais pas si vous savez, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est de parler en public. La première peur des Américains, c'est de parler en public. Et là, c'est le point de départ de David. Il ne se sent pas en sécurité. Il a besoin d'un refuge. Il a besoin d'être gardé. Peut-être que pour vous en ce moment, c'est que vous avez peur du lendemain. Peut-être que pour vous en ce moment, c'est que vous avez des problèmes d'argent. Vous avez des problèmes matériels. Ou peut-être que vous avez besoin d'être gardé par rapport à un péché. Et là, dans votre cœur, dans votre tête, il y a des péchés qui viennent à votre esprit. Mais quoi qu'il en soit, on connaît tous des peurs. Et cette première phrase, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi », elle dépeint le cœur de David qui se réfugie en Dieu, qui va vers cette montagne où il trouve le bonheur. Et cette première phrase, elle colore tout le psaume. Donc j'en arrive à mon premier point que j'aimerais qu'on retienne, c'est qu'il faut faire un choix. Il faut faire un choix. On a tous un refuge, mais il faut faire un choix. Dans quelle case sommes-nous? Sommes-nous sur cette plage à côté de ce bidonville où spirituellement tout va mal? Ou est-ce que l'on se réfugie dans cette montagne divine où l'on trouve la vie? Et le verset 2, il indique le choix qu'il faut faire. « Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. » Et là, ça fait écho à notre deuxième question. Où est-ce que je me réfugie? Où est-ce que je me sens le plus en sécurité? Prenons le temps d'y réfléchir. Où est-ce que je me sens le plus en sécurité? Si aujourd'hui je perdais la santé, comme par exemple Job dans la Bible, comment me sentirais-je? Est-ce que je serai toujours en sécurité? Ou au contraire, est-ce que mon bien suprême, c'est le fait d'être en bonne santé? Dernièrement, j'ai discuté avec une amie et elle m'a parlé de Français qui ont été persécutés en France pour leur foi dans les années 90. Ils n'ont pas eu le droit d'avoir la garde de leur fille pendant 7 ans et ils ont dû s'enfuir au Royaume-Uni. Quand je suis parti en Côte d'Ivoire, peut-être que certains le savent, on est allé dans un village complètement musulman et animiste. Et Benjamin Short, le missionnaire, n'avait pas le droit de faire ce qu'on fait là, tout simplement, un culte. Et il y avait des personnes qui allaient au culte et qui savaient que s'ils allaient au culte, ils allaient se faire brûler tout leur champ, tout ce qu'ils avaient. Si aujourd'hui je me fais persécuter de cette manière et qu'on m'enlève la liberté religieuse, est-ce que je me sentirai toujours en sécurité? Je rappelle que les protestants, on l'a connu plusieurs fois dans l'histoire. Si la réponse est non, c'est qu'on se réfugie dans notre propre confort. Si on m'enlevait ma famille, si on m'enlevait mes enfants, si on m'enlevait ma femme, si on m'enlevait mon mari, si on m'enlevait mon argent, si on m'enlevait mon travail, est-ce que je me sentirais toujours en sécurité? Imaginez-vous perdant ça. Est-ce que je paniquerais? Et je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité ces derniers temps, mais entre les États-Unis et la Corée du Nord, ça ne va pas très bien. Et en tant qu'étudiant en histoire, je ne peux que me rappeler des deux dernières guerres mondiales. Imaginez que l'on entre dans une troisième guerre mondiale. Est-ce que je me sentirais en sécurité ou est-ce que j'aurais peur de mourir? Et dernièrement, excusez-moi avec tous ces exemples, si on m'enlevait mon smartphone, si on m'enlevait ma nouvelle technologie, moi je sais que j'ai besoin de me détacher de la nouvelle technologie. Et donc il y a un an, j'ai fait le choix, j'ai pris un défi en fait, pendant un an, d'utiliser ceci. C'est un Alcatel, dernier cri, à moins de 10 euros. Et je ne sais pas pour vous, mais cet Alcatel d'ailleurs, les enfants de la colo où j'étais l'appelaient l'huître. Il y en a qui rigolent parce qu'ils étaient avec moi. Mais je ne sais pas pour vous, les exemples que j'ai utilisés illustrent en fait une réalité, c'est qu'on a besoin d'une assurance. On a vraiment besoin d'une assurance qui dure, d'une assurance qui ne soit pas éphémère, qui surpasse tout ce que le monde peut offrir, d'une sécurité parfaite. À la table des délices, on doit faire le bon choix. Celui qui n'est pas éphémère, c'est-à-dire celui de Yahweh, Dieu. Et les versets 1 à 5 du psaume montrent que David fait ce choix de préférer le Créateur. C'est son refuge, c'est son Seigneur, c'est-à-dire son Maître, c'est son bien suprême. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait de bien, il le fait à la gloire de Dieu, avec un esprit de reconnaissance. La première chose à retenir, c'est qu'il faut faire un choix. Et dans celui-ci, il y a deux aspects à souligner. C'est qu'il y a des personnes autour de nous qui reflètent la gloire de Dieu et qu'il y a également des personnes autour de nous qui courent après des dieux étrangers. Et là, la question de l'influence des autres sur nous se pose. Concernant le verset 3 qui est difficile à traduire, mais on va utiliser cette traduction. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. Et puisqu'on étudie les commentaires de Luther le mardi, j'avais envie de vous partager le commentaire d'un réformateur sur ce verset, Calvin, qui dit « Ce passage nous enseigne que le sacrifice le plus agréable que nous puissions offrir à Dieu, c'est de nous joindre en esprit à la compagnie des fidèles, nous, et de nous appliquer à cultiver l'amour fraternel. C'est là cette communion des saints qui les sépare des souillures du monde et fait d'eux le précieux trésor du Seigneur. » Donc d'un côté, il y a le fait de s'affectionner à ceux qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. On ne parle pas simplement des personnes qui se disent chrétiennes ou qui viennent à l'église. On parle des personnes qui sont radicalement changées pour l'œuvre de Christ. Et de l'autre côté, je cite, « On multiplie les idoles en cours après les dieux étrangers. » Et c'est vrai qu'à cette époque, il était question de polythéisme, c'est-à-dire que les personnes faisaient des sacrifices à plein de dieux différents. Et je pense qu'une des peurs de David, c'était de sombrer dans ce culte aux idoles, comme l'avaient fait certains Israélites. Mais lui répond, non, je veux servir simplement Dieu. Il dit, je ne mets même pas leur nom, les noms des dieux étrangers sur mes lèvres, ce qui était d'ailleurs un commandement de la loi de Moïse, dans Exode 23 pour ceux qui ont envie de lire. Et ça me fait penser personnellement à Éphésiens chapitre 5, verset 16, qui dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ne faisons pas l'honneur aux idoles, aux faux dieux de les nommer. Quand vous regardez votre vie, qui vous appréciez le plus? Quelles sont les personnes qui vous influencent le plus? Est-ce que ce sont les musiciens, les politiciens, pour les plus jeunes d'entre nous, les youtubeurs, les sportifs, nos amis, les médias, etc. Qui est-ce que vous affectionnez le plus dans votre vie? Et cette semaine, j'écoutais certaines musiques et un peu par hasard, je suis tombé sur les musiques d'Eminem. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un rappeur très connu. Et je me suis aperçu à quel point les gens l'adoraient. Mais quand je dis l'adorer, c'est l'adorer. C'est-à-dire que dans les débats, c'était « Ah non, mais lui, Eminem, c'est vraiment le meilleur rappeur de tous les temps. » Alors j'ai fait quelques recherches sur Eminem pour voir. Et je suis tombé sur une chanson qui s'intitule « Rap God », le dieu du rap. Et il s'appelle comme ça. Il se nomme lui-même le dieu du rap. Vous voyez un petit peu ce que ça veut dire, une idole contemporaine. Et il y a plein de choses que l'on peut aimer, mais rapidement, ça peut devenir de l'idolâtrie. Si on n'est pas radicalement en train de monter vers cette montagne, on ne découvrira jamais les trésors extraordinaires que Dieu a pour notre vie. Et un des trésors immenses que Dieu donne, c'est de passer du temps avec des personnes qui ont les yeux fixés sur Jésus. Ça me permet de faire la transition avec le deuxième point que j'aimerais qu'on retienne ce matin, c'est que l'on fait partie de la famille de Dieu. Et comme plusieurs le savent, j'ai jamais connu mon Père terrestre, mais le fait de ne pas connaître mon Père terrestre, ça m'a permis très rapidement de considérer mon Père céleste comme mon vrai Père. Et forcément, quand vous avez des enfants, vous les aimez. Et dans ce cantique, c'est la notion d'héritage qui est mise en avant. Donc si je vous dis, vous faites partie de la famille de Dieu, c'est la question de l'héritage ici qui nous importe. Versets 5 et 6. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Sur la table des délices, David a fait son choix. Il choisit de boire la coupe de Dieu. Et on peut ici savourer une réalité pour notre vie, c'est que dès lors que nous faisons le choix de Dieu, on peut comprendre que celui-ci est totalement souverain. C'est toi qui m'assures mon lot. C'est Dieu qui m'assure mon lot. Imagine un enfant qui est adopté. Lui, il n'a rien fait. Ses parents ont tout organisé pour l'avoir avec eux. Et tout ce qu'il va recevoir, il ne le mérite pas. Mais c'est grâce à sa nouvelle famille. Il va recevoir une éducation. Il va recevoir des aides, de l'amour. Et après la mort de ses parents, il recevra peut-être un héritage. Et dans ce passage, il est aussi question d'une belle possession que reçoit David. Et ça m'a fait directement penser à une histoire que j'ai vécue au début de cette année. C'était la première fois où j'allais voir des SDF. Avec des amis d'autres églises, on s'était dit, et de cette église aussi, on s'était dit, allons voir les SDF, parce qu'on veut les bénir. On avait demandé à Dieu, on avait prié Dieu pour qu'il puisse nous diriger. Et là, c'était le soir, on a rencontré un couple. Un couple qui allait très mal, qui n'avait aucun logement, qui en cherchait depuis des mois. Et ce couple, il luttait avec la drogue. Le gars, il avait un diable dans le dos. Donc vous imaginez un peu le passé de ces personnes. Et c'est vrai que c'était difficile quand on a vu ça. Mais on avait prié, donc on avait de quoi leur parler. Et on a prié pour eux. On a chassé certains démons. Et on leur a dit que le nom de Jésus pouvait leur offrir ce qu'ils attendaient. Et dans leurs yeux, on voyait qu'ils espéraient mais ils croyaient pas en Jésus, mais ils espéraient quelque chose. Et là, on a commencé à prier pour ces deux SDF, pour ce couple. Et pendant qu'on priait, il y a une personne qui est arrivée, qui a fait « Ah, je vous cherchais depuis tellement longtemps. » Ben, je ne vous trouvais pas. C'était pour vous dire que j'ai un logement pour vous à Saint-Gaudens. Ça faisait des mois qu'ils attendaient. Vous imaginez même pas la réaction qu'ils ont eue. Ils étaient en pleurs. C'est pour vous montrer que Dieu est vraiment souverain dans nos vies. Ça, c'est qu'une histoire parmi des milliers. Si certaines personnes sont sceptiques, je vous invite à venir à la fin du culte. Et vraiment, Dieu est vivant. Parlez à des gens ici, Dieu est vivant. Et donc la chose que l'on doit retenir ce matin, c'est qu'il nous assure qu'il est notre refuge, notre sécurité, et qu'il pourvoit à tous nos besoins. Mais à mon sens, le psaume 16 va beaucoup plus loin que ces simples vérités. Il nous assure un héritage éternel. Il nous assure un héritage céleste où nous allons pouvoir rencontrer Dieu et vraiment goûter pleinement cette montagne. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut pas se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » C'est donc un héritage délicieux qui nous attend, bien plus intense que la puissance de Dieu que vous pouvez vivre ici-bas. Nous faisons partie de la famille de Dieu, si on a mis notre confiance en Jésus. C'est le deuxième point à retenir. Et pour terminer, les versets 7 à 8 montrent un David qui change complètement par rapport au début du voyage. Il dit « Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. » Ici, ce n'est plus une requête, comme on s'en rappelle au verset 1. C'est une affirmation. Et lorsque nous comprenons cette réalité que Dieu est notre bien suprême et souverain, qu'il nous conseille, que nous sommes préservés en lui et gardés, nous avons quitté le petit bidonville et la plage chaotique de ce jeune enfant. Et nous avons décidé de nous délecter de précieux trésors en haut de la montagne. Et ces trésors, ça nous donne une paix, vraiment une paix qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre sur cette terre. Cette paix et cette joie, elle est annoncée au verset 9 à 11, où il est dit « C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur et des délices éternels à ta droite. » Et il y a deux choses à dire sur la fin de ce psaume. C'est que premièrement, certaines de ces vérités s'appliquent à nous. La paix, la joie, l'allégresse sont les fruits de notre confiance envers Dieu. Est-ce que l'on peut goûter ça en ce moment? Est-ce que l'on goûte ça? Et là, on a la réponse à une question que l'on se posait au début. De quoi David a-t-il peur? Pourquoi David demandait-il d'être gardé? Et je pense qu'il pensait à la mort, parce qu'il parle justement de la mort à ce moment-là, et qu'il est gardé de la mort. Peut-être que certains d'entre nous avons peur de la mort. Et ça, c'est une réalité que l'on va tous vivre. Jeune, vieux, pauvre, riche, petit, grand, qu'importe, on mourra tous. Et la question est, où est-ce que je trouve mon refuge ? En qui est-ce que je prends plaisir? En quoi est-ce que je prends plaisir à longueur de journée, pendant la semaine? Qu'est-ce que je trouve délicieux à partager? Qu'est-ce que je partage le plus? Et la réponse à ces questions doit être éternelle. Parce que tout ce qui n'est pas éternel est éternellement vain. Ça, c'est une citation de C.S. Lewis, l'auteur de Narnia. Tout ce qui n'est pas éternel est éternellement vain. David a vaincu sa peur parce qu'il aime Dieu comme son refuge, son trésor, son Seigneur, son conseiller. Mais bien plus, ces versets, en fait, s'appliquent à un descendant de David qui nous assure ces vérités. Vous avez deviné, c'est Jésus. L'apôtre Pierre, en Actes des Apôtres, chapitre 2, dit « Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. » Pierre, il était franc. « Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. Son tombeau existe encore près de nous ici. Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis, sous la foi du serment, de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Ainsi, il a entrevu par avance la résurrection du Christ. Et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle. Mais nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il a répandu sur nous. C'est grâce au Christ qui n'a pas connu la décomposition. Il a été crucifié et il est ressuscité 3 jours après que nous pouvons avoir cette paix infinie face à la mort. Demandez-lui d'avoir cette paix dans vos prières. Et vous verrez qu'il va vous répondre et que vous n'allez plus avoir peur de la mort. Certes, notre corps actuel va mourir, comme celui de David est mort, mais notre âme, elle, va vivre éternellement. Je ne sais pas si on arrive à se représenter cette éternité. Si je déroulais un fil partout dans ce lieu et que je prenais le bout du fil, seulement, allez, on va dire ça représenterait votre vie et ma vie. Tout le reste représenterait l'éternité. Vous imaginez? Alors, il faut bien gérer cette petite, infime partie de la corde pour que la suite puisse être géniale et pour qu'on puisse vraiment goûter au plaisir de Dieu. Et quand nous hériterons des promesses de Dieu, nous allons avoir un corps glorifié. Un corps qui ne connaîtra pas du tout la décomposition. Changeons donc de vie. Arrêtons de nous comporter comme ce gamin sur la plage qui se satisfait de faire des petits tas de sable. Et allons vers la montagne sainte, allons vers Dieu, que ce soit dans les bons moments ou que ce soit dans les moments difficiles, allons vers lui. C'est là où notre âme sera la plus rassasiée et la plus satisfaite. Et j'aimerais qu'on prie pour conclure. Seigneur, nous sommes si petits par rapport à toi, toi qui nous as créés, et on te remercie vraiment pour ce psaume que tu as mis dans la révélation qu'est la Bible. Seigneur, peut-être que certaines personnes ce matin ont compris qu'ils étaient comme ce petit garçon dans le sable. Et je veux vraiment te prier que tu nous mettes dans nos cœurs une soif telle que l'on soit obligé, que l'on se sente attiré vers cette montagne. Seigneur, ne permets pas que dans cette salle, il y ait des personnes qui restent dans cet état, mais que vraiment on puisse prendre plaisir en toi chaque jour, que l'on puisse lire ta parole, partager ces délices, partager ce bon repas que tu nous accordes. Je te remercie parce que tu réponds aux prières. Je te prie que tu nous fasses grandir dans la foi, que tu nous aides avoir une paix infinie et à la partager aux autres. Dans le nom de Jésus. Amen.